Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. C'est la une ce matin, l'échec cuisant de la diplomatie hier à Luanda. Le rendez-vous pour discuter de la paix dans l'est de la RDC a été annulé à la dernière minute. Le président Kagame n'est pas venu rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi. On vous explique pourquoi dans quelques instants. Un sommet de la CEMAC aujourd'hui. Les chefs d'État de la communauté économique d'Afrique centrale se réunissent quant à eux à Yaoundé. Il sera question de la situation économique de la région, mais l'occasion également pour Paul Biya de revenir sur le devant de la scène. Lui revient justement sur le devant de la scène après un mois d'absence au Gabon. L'ancien ministre des Mines Hervé Patrick Opianga, recherché par la justice. Il se défend dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. La situation dramatique des Comores, ensuite frappée de plein fouet samedi par le cyclone Chido. Les autorités redoutent un bilan humain très lourd. Chido qui a frappé le Mozambique également hier, mais épargné relativement les Comores. En revanche, on fera un bilan. L'horreur dont sont victimes les Soudanais et notamment les femmes. L'ONG Human Rights Watch documente de nombreux cas de violences sexuelles à leur encontre. Et puis, notre dossier, l'état de la société sud-africaine en cette journée nationale de la réconciliation, le 16 décembre, comme tous les ans sur place. Mais 30 ans après la chute de l'apartheid, il reste du chemin pour que le processus de réconciliation aboutisse totalement, vous l'entendrez. Ce n'est donc pas aujourd'hui que la paix reviendra dans l'est de la RDC. L'idée d'un accord s'est éloignée hier après l'annulation à la dernière minute de cette rencontre qui était tant attendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le sommet était prévu à Luanda sous la médiation angolaise qui s'était pourtant montrée très optimiste, cette médiation angolaise à l'approche de ce rendez-vous. Mais le président Kagame finalement n'est pas venu. Pourquoi cela ? Eh bien, Kigali répond ce matin avec notre correspondante Lucie Mouillot.
D'après le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Ndungirehe, face à l'impasse des discussions ministérielles à la veille du sommet, la rencontre prévue ce dimanche à Luanda entre les chefs d'État n'avait plus de raison d'être.
On a passé 9 heures sur un seul point, du fait que le Congo a catégoriquement refusé toute idée de dialogue avec le M23, ce qui contredisait l'accord initial. Donc les chefs d'État ne pouvaient pas venir, alors que le seul point à l'ordre du jour n'était plus d'actualité à cause de l'intransigeance congolaise.
Kinshasa affirme qu'un dialogue avec le M23 n'a jamais été au programme de Luanda. Le groupe armé n'était pas évoqué dans le concept d'opération signé fin novembre, un document abordant la neutralisation des FDLR et le retrait des mesures défensives rwandaises, dont l'efficacité dépend, selon Kigali, de la recherche de solutions avec les rebelles.
Dans le meilleur des scénarios où le concept des opérations est appliqué à 100%, si on ne règle pas la question des M23 en même temps, demain matin, après-demain, la RDC va encore accuser le Rwanda et on aura fait tout ça pour rien. Donc cette question doit être réglée.
Dans un communiqué, le Rwanda dénonce également des menaces formulées par des dirigeants congolais, mais selon le ministre, le pays reste ouvert à un accord si une proposition concrète et sérieuse, incluant un dialogue avec le M23, est présentée. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et signe que les armes s'expriment toujours sur le terrain. Les rebelles du M23, eux, encore avec le soutien du Rwanda, donc, en ont profité pour gagner du terrain dans l'est de la RDC, en territoire de Lubero. Ils ont pris le contrôle hier de Matembe, une localité à 150 km environ de Goma, la capitale du Nord Kivu. Un rendez-vous diplomatique aujourd'hui au Cameroun. Yaoundé accueille un sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les discussions devraient être essentiellement économiques ici, à l'heure où la région enregistre des signaux d'alerte préoccupants. C'est ce que dit l'organisation. Et ce sommet sera également l'occasion de revoir Paul Biya sur le devant de la scène après son retour au pays le 21 octobre, qui a refermé, on s'en souvient, de longues semaines de spéculations en tout genre sur son état de santé. À Yaoundé, Polycarpe Samba.
Depuis ce 21 octobre 2024, le président Paul Biya renoue avec la relative discrétion et un rythme de travail que ses compatriotes lui connaissent, notamment quelques audiences filmées et diffusées à la télévision nationale à des dignitaires étrangers ou à des diplomates en fin de séjour au Cameroun, mais pas de prise de parole ou d'apparition publique, même pas le 6 novembre, date à laquelle son parti, le RDPC, commémorait les 42 ans de son accession à la présidence du Cameroun. Rien d'inhabituel donc, et les rumeurs sur son état de santé qui ont alimenté son dernier séjour à l'étranger, ce sont elles aussi bien estompée. Cette routine sera brisée ce lundi avec ce sommet extraordinaire de la CEMAC où sont annoncés tous ses 5 homologues de la sous-région. Un sommet, a-t-on appris de sources diplomatiques, qui aurait dû se tenir à Bangui en République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra étant le président en exercice de l'institution, mais ce dernier aurait finalement concédé que ses assises se tiennent à Yaoundé. Une occasion pour les nombreux observateurs qui scrutent les faits et gestes du président camerounais de le voir de nouveau à l'œuvre. Pour les Carpesomba Yaoundé, RFI.
Après près d'un mois de silence radio hors des radars, un ancien ministre gabonais réapparaît à la faveur d'une vidéo sur les réseaux. Hervé Patrick Opianga, l'ancien ministre des Mines, un homme d'affaires influent, proche de l'ancien président Ali Bongo. Il avait disparu au lendemain d'une convocation par la police judiciaire de son pays à laquelle il ne s'était pas rendu. Et dans une vidéo de près de 20 minutes, il a donc décidé d'essayer d'éclaircir sa situation. Il se défend, Paul Lorgerie.
Loin de ses costumes trois pièces et de son bouc bien taillé, Hervé Patrick Opianga, dit HPO, arbore une barbe hirsute et un t-shirt blanc. Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook du journaliste en exil Jonas Moulenda, l'ancien ministre des Mines, qui ne donnait plus de nouvelles depuis le 22 novembre, justifie son mutisme.
Je n'ai pas fui. Pour des raisons de sécurité, il fallait que j'observe une période de silence, d'observation.
Revenant sur les accusations de viol et de séquestration qui lui sont reprochées, Hervé Patrick Opianga évoque également la sortie du procureur de la République, Bruno Obiangwe. La veille, le magistrat avait en effet annoncé que l'homme d'affaires est désormais soupçonné d'une tentative d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et que des perquisitions avaient été effectuées chez lui ainsi que ses proches.
Au cours de celle-ci, une somme de 179 645 449 francs CFA a été retrouvée, ainsi que des documents susceptibles d'atteinte à la sûreté de l'État.
Un mensonge, s'offusque l'homme d'affaires, qui dénonce une manipulation de la justice, tout en appelant le président Brice Oligui Nguema, dont il a été proche au lendemain du coup d'État, à tout faire pour, je cite, « œuvrer à ce qu'il y ait une accalmie ».
Paul Lorgerie. Des chiffres revus à la hausse en Ouganda. Les glissements de terrain ayant frappé l'est du pays fin novembre, conséquence des inondations, ont finalement fait au moins 36 morts. Nouveau bilan communiqué hier par le gouvernement précisant que plusieurs personnes restent disparues et sont probablement décédées, elles aussi. Par ailleurs, plus de 5000 foyers de la zone devront être déplacés en raison d'une énorme fissure détectée dans le sol montagneux sur une distance d'environ 70 km. Il sera très difficile d'établir un bilan selon le préfet de Mayotte, mais l'île de Mayotte est en situation de grande urgence après le passage ce week-end du cyclone Chido. Il a tout dévasté sur son passage, des vents de plus de 225 km/h. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts sont ici à craindre. Un pont aérien et maritime est organisé en réaction depuis l'île de la Réunion. Les premiers avions transportant du matériel, des personnels ont atterri hier. Chido, lui, pendant ce temps, poursuivait sa course au Mozambique, faisant au moins 3 morts sur place selon un premier bilan. En revanche, l'archipel des Comores dans la région a pour sa part été relativement épargné, dirons-nous. Sidi Hansane, sur place, seuls des dégâts matériels ont été enregistrés pour l'heure.
Selon le colonel Abdallah Rafi, qui est directeur général de la sécurité civile et gestion des crises des Comores, l'archipel a échappé à l'œil du cyclone, la vitesse de Chido ayant progressivement ralenti à l'approche des côtes des îles de Moéli, d'Anjouan et de la Grande Comore. Les services de secours n'ont enregistré ni décès ni disparus. Ils comptent 2 blessés légers à Anjouan et 24 déplacés pris en charge par la sécurité civile et le Croissant Rouge, mais une quarantaine d'habitations précaires ont été totalement détruites sur l'île d'Anjouan. Ce sont surtout les infrastructures de l'archipel qui ont été touchées, des bateaux de pêche endommagés, une ferme avicole complètement détruite et les toitures des établissements scolaires d'Anjouan et de Moéli emportées. Sur cette dernière, où 900 abris ont été mis à disposition, plusieurs pylônes arrachés affectent le circuit électrique de l'île et plusieurs axes routiers restent bloqués à cause des éboulements. La dernière tempête violente aux Comores remonte à 2019, lorsque le cyclone Kenneth avait causé 2 morts et d'importants dégâts matériels.
Les explications de Sidi Hansane. Une nouvelle alerte sur la situation chaotique du Soudan, déchiré par la guerre depuis plus d'un an et demi. Les civils y sont victimes de nombreuses violences, sexuelles notamment. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport de Human Rights Watch. L'ONG a rencontré près de 80 personnes déplacées dans l'état du Kordofan, pour la plupart de l'ethnie Nouba. Ils témoignent des exactions commises par les paramilitaires des forces de soutien rapide entre décembre de l'an passé et le mois de mars de cette année. Viol collectif ou bien encore esclavage sexuel, entre autres horreurs.
Écoutez l'alerte de Laetitia Bader, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch.
Il y a eu des maintes attaques sur des villes dans le sud kordofan par les FSR. Et c'est dans ce contexte de ces attaques que l'on a vu une fois de plus des violences sexuelles à un niveau massif. On a documenté en parlant à et des victimes de violences sexuelles, surtout de viols, inclut des viols collectifs à maintes reprises contre des femmes et des filles dans des villes du sud kordofan. Alors nos entretiens avec des victimes et des survivantes de viols, mais aussi avec des membres de leur famille, décrivent vraiment une fois de plus des exactions absolument terribles, qui sont des crimes de guerre et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
Laetitia Bader de Human Rights Watch, la journée officielle de la réconciliation en Afrique du Sud. Notre dossier ce matin, The Day of Reconciliation, c'est aujourd'hui le 16 décembre, comme tous les ans, mais il a cette année une saveur particulière à l'heure où la nation arc-en-ciel célèbre ses 30 ans de démocratie. La fondation Nelson Mandela relance le combat pour tenter de réparer les inégalités. L'accès aux terres notamment qui reste toujours difficile pour les populations noires. Une procédure judiciaire a ainsi été engagée contre l'État sud-africain. Car pour la petite fille de Nelson Mandela, c'est certain, le processus de réconciliation est loin d'être achevé. Valentin Hugues a eu la chance de la rencontrer pour RFI.
Dileka Mandela nous donne rendez-vous dans un restaurant au nord de Johannesburg. Pour elle, ce 16 décembre, c'est un jour qui célèbre le pardon accordé par son grand-père.
Mon grand-père a choisi de pardonner ceux qui l'ont emprisonné, qui l'ont empêché de voir grandir son fils, mon père. Il a choisi la réconciliation.
En 1995, moins d'un an après son élection, la commission Vérité et Réconciliation a été créée. L'objectif est de permettre aux victimes de témoigner de la violence de l'apartheid.
Même avec le travail de cette commission, toute la vérité n'a pas été dite. Aujourd'hui, nous sommes très loin de la réconciliation. Et quand on exprime une certaine colère, on nous parle de la nation arc-en-ciel, comme si finalement nous n'avions plus le droit d'être en colère.
Comme pour reprendre le flambeau de son grand-père, Dileka Mandela a créé une fondation qui milite pour l'émancipation de la jeunesse. C'est Born Free, c'est-à-dire né libre en démocratie.
Beaucoup d'entre eux n'ont pas de travail et à cause de cette frustration, ils se dirigent vers la drogue, la délinquance. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accepter que l'on part de très loin et agir maintenant. Pour que les jeunes, dans 30 ans, ne se disent pas « nous avons finalement régressé ».
En ce 16 décembre, les Sud-Africains sont invités à s'engager sur le terrain dans leur communauté pour continuer ce travail de réconciliation au quotidien. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Une réconciliation encore non achevée en Afrique du Sud, on l'a compris. Et c'est également le constat de l'Institut pour la justice et la réconciliation. Felicity Harrison est l'une de ses responsables. Et selon elle, la démocratie sud-africaine est très jeune. Alors, il faudra encore une ou deux générations pour voir le processus aboutir.
C'est encore très incomplet aujourd'hui parce que la commission Vérité et Réconciliation n'a pas été créée pour être le début et la fin de la réconciliation. C'était simplement la première étape d'un long chemin. Quand l'apartheid a pris fin en 1994, le racisme et les inégalités n'ont pas disparu. Ça prendra beaucoup de temps et ça passera par des actions claires. De la même manière que le racisme a été institutionnalisé par la législation de l'apartheid, il faut trouver des moyens officiels de le briser. Nous ne pouvons pas juste attendre que tout ça disparaisse comme par magie. Les questions relatives à la terre, par exemple, n'ont pas été assez abordées. Cette dépossession massive des terres des populations noires pendant le colonialisme et l'apartheid, nous n'avons toujours pas progressé en termes de redistribution ou de compensation, ce qui pourrait permettre de réparer les blessures du passé.
Felicity Harrison pour refermer notre dossier en Afrique du Sud. Restez avec nous. La matinale continue avec Andréane Mélard.